18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour chers amis auditeurs, partout en France, vous qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on va commencer au menu de cette émission 18h-19h30. Votre émission où on commente, analyse et on décrypte l'actualité. La galère continue dans les stations d'essence. Est-ce qu'on peut encore trouver une station qui nous permette de mettre de l'essence? C'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. Évidemment au 01 53 48 3000. Autre question que je vous poserai. Alors, atteinte à la laïcité à l'école, 313 signalements en septembre. Ça, c'est un communiqué du ministre de l'Éducation nationale qui a signalé cette atteinte à la laïcité dans les écoles, les collèges, les lycées. Et je dois dire que ça préoccupe. Alors, j'ouvrirai l'antenne et j'en parlerai avec vous parce qu'il n'y a pas de raison. Je voudrais vous entendre, nous livrer votre point de vue, nous livrer votre sentiment. On parle de Iba, on parle de gens qui viennent à l'école. On va en parler. Racisme de volume. Vous savez, c'est un article de Marianne. Il dit que s'agacer du bruit dans les transports en commun, est-ce que c'est raciste? Vous savez, ce fameux bruit-là, les gens quand ils parlent fort, quand on hurle, etc. Bon, on va en parler. 01 53 48 3000. Et puis, l'interview du jour aujourd'hui. On va parler du 17 octobre 1961. On reviendra sur cet épisode et notamment des différentes manifestations qui se déroulent un peu partout en France concernant la commémoration donc de cette fameuse date. Et ce sera dans une poignée de minutes. Ensuite, 18h30, le grand Pascal Boniface et son billet d'humeur sur la guerre en Ukraine. Peut-on parler de la bombe nucléaire désormais? C'est une question qui s'impose, une question qui se pose. Vous savez que Poutine dit régulièrement que ce n'est pas du bluff, qu'il est tout à fait envisageable de lâcher une bombe en Ukraine. Mais après, les pays européens, eux, ils répliquent. Ils disent « Ok, monsieur Poutine, vous voulez lâcher la bombe si ce n'est pas du bluff? Eh bien nous, on va répliquer avec une grosse armée qui va anéantir l'armée russe. » Bref, on en parle tout à l'heure parce que ça mérite quand même qu'on pose les éléments, qu'on pose un véritable décryptage tout à l'heure avec le face-à-face, c'est Emmanuel Dupuis face à Rudy Kazi. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
L'interview du jour, c'est avec Omar Slaouti, qui est militant antiraciste du collectif et du collectif 17 octobre 1961. Mais également, c'est un élu, il est conseiller municipal sur la ville d'Argenteuil. Bonjour monsieur l'élu, bonjour Omar Slaouti.
Bonsoir Adil, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices.
On est content de vous avoir sur l'antenne. Ça faisait longtemps d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est bon. Vrai, il y a eu un long tunnel, mais on est toujours là.
Comment vous portez?
Ça va, alhamdoulilah, on se maintient malgré l'air du temps qui n'est pas très très beau, hein, mais collectivement on arrive à tenir debout.
Dites-moi Omar, vous êtes notre invité, Omar Slaouti. Justement, vous organisez une série dans le cadre de commémoration du 17 octobre 61. Il y a un événement, une initiative que vous portez avec le collectif 17. On peut en parler?
Bien sûr, justement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe cette année, avec des personnes et des personnalités comme Yasmina Bédard, qui est la cousine de Fatima Bédard. On rappelle que Fatima Bédard, c'est la plus jeune qui a été tuée ce 17 octobre 61. Elle avait 15 ans, elle avait son cartable sur le dos, et on l'a retrouvée assassinée, jetée à la Seine.
Oui, horrible.
Alors Yasmina Bédard est ici, elle fait un travail extraordinaire sur la ville de Saint-Denis, mais il y a Chérif Cherfi et beaucoup d'autres. Tant et si bien que, rien que pour la banlieue nord-ouest, on a 27 initiatives à Aubervilliers, Saint-Denis, Colombes, Argenteuil, bref, j'en passe et des meilleurs, Asnières, Nanterre, Clichy-la-Garenne, Beson, autant de rendez-vous que tous les auditeurs et les auditrices peuvent retrouver sur notre page Facebook, Collectif 17 octobre 61.
Tous ces rendez-vous, Omar Slaouti, sont portés par le Collectif 17?
C'est ça. C'est notre marque de fabrique. On a voulu démultiplier les initiatives au plus près des habitants de la banlieue, parce que c'est très compliqué de se déplacer, particulièrement dans cette période avec les longues files d'attente au niveau des pompes à essence. Mais très sérieusement, c'est l'idée de faire au plus près des gens et de faire en sorte que ces rendez-vous soient pas simplement des rendez-vous de mémoire, mais des rendez-vous où on rappelle l'histoire, et notamment une que le gouvernement Macron veut cacher, mais pas que lui, les gouvernements précédents aussi, qui consiste à dire que l'Algérie et la France, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire commune avec sa part de tragique. C'était une véritable guerre, et notamment une guerre contre l'humanité, une guerre avec ses bombes napalm, ses tortures, ses 25% de la population qui était dans les camps où ils étaient concentrés juste à la fin de la guerre d'Algérie. Et donc nous, on tient à rappeler, partout où on intervient, qu'il s'agit d'un crime d'État. Et il est temps que le gouvernement français le reconnaisse en tant que tel.
Quel est l'enjeu de toutes ces manifestations, de ces initiatives? Quel est l'enjeu pour vous et pour le collectif 17, mon cher Omar Slaouti?
L'enjeu, il est au moins double. D'abord, c'est de dire aux plus jeunes générations que la scène, elle peut témoigner de ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi les Chibani, les Chibaniyas. Mais ils nous quittent au fur et à mesure. Beaucoup, beaucoup aujourd'hui sont décédés, ceux et celles qui ont vécu le 17 octobre. Alors il faut des passeurs de mémoire, évidemment. Très modestement, on y contribue à l'aide aussi combien sur d'historiens, d'historiennes, de politologues, de films, de livres. Donc il y a un passage, une transmission importante. Mais il y a une exigence politique, c'est-à-dire d'expliquer qu'on doit reconnaître aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un crime d'État. Pour que les gens se rendent compte. Et il y avait à l'époque de Maurice Papon, du gouvernement, parce que tout ça était sous les ordres du gouvernement de De Gaulle, 14 000 RAF, c'est-à-dire un Algérien sur deux dans cette banlieue, cette région parisienne, qui a été arrêté. C'est évidemment une RAF, c'est évidemment, quand on regarde la qualification juridique et politique, on peut parler sans aucun problème de crime contre l'humanité. Alors vous voyez, c'est pas réveiller la mémoire pour se faire mal. C'est pour dire que d'hier à aujourd'hui, il y a encore des crimes racistes qui se perpétuent et on tient à les dénoncer. Et il y a un rendez-vous à Argenteuil, pour parler de très, très court terme. On vous donne rendez-vous à Argenteuil devant la sous-préfecture samedi à 14h. Et puis à 15h, à la MJC d'Argenteuil, 5 rue des Gobelins, c'est à côté de la sous-préfecture.
Oui.
On aura un débat extrêmement intéressant avec une pièce de théâtre qui sera suivie derrière. Dimanche matin, on vous donne rendez-vous au marché Louise pour jeter des fleurs sur la scène, avec bien sûr des prises de parole.
Toujours à Argenteuil.
Et le lundi soir, toujours à Argenteuil. Et le lundi soir, une projection toujours à la MJC d'Argenteuil.
Riche programme.
Dans le même temps des... Pardon ?
Allez-y, je vous laisse finir.
Il se passe aussi des choses dans le même temps à Colombes, à Saint-Denis. Voilà pourquoi. Selon l'endroit où vous habitez, ceux et celles qui nous écoutent, allez sur la page Facebook 17 octobre 61, banlieue nord-ouest. Vous serez au courant de tous ces passages-là.
Est-ce que tous ces, justement, ces initiatives, ces événements ont une même ligne de conduite, c'est-à-dire le même mot d'ordre ? Et quel est-il, justement, de quoi s'agit-il s'il y a un mot d'ordre ? Si je dois évidemment faire référence à toutes ces initiatives que vous portez.
Eh bien, le mot d'ordre, il est double. D'abord, exiger que le gouvernement reconnaisse qu'il y avait là un crime d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on pourrait dire, c'est qu'il puisse y avoir enfin un lieu de mémoire, sans doute à Paris, mais pas obligatoirement, qui rappelle et qui insiste sur cette dimension historique et politique de ce 17 octobre 61. C'est pas possible de faire taire l'histoire, y compris en convoquant des pseudo-commissions avec des soi-disant historiens algériens et français qui feraient la lumière sur l'événement. On sait ce qu'a été la guerre d'Algérie, c'est suffisamment documenté. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître le fait qui relève du crime d'État.
Dites-moi, Omar Slaouti, je connais vos combats, je connais aussi évidemment votre engagement. À qui vous vous adressez justement quand vous parlez de ces manifestations ? Notamment, vous et d'autres regrettent qu'il n'y ait pas suffisamment de jeunes qui soient présents dans ce genre d'événements.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, Adil, vous avez raison. on a la prétention de s'adresser d'abord à ceux et celles qui pourraient être héritiers de ces mémoires de l'immigration. Et donc, évidemment, les nouvelles générations, troisième, quatrième génération d'Algériens, on pourrait dire, mais de manière très large, tous ceux et toutes celles qui ont été, qui ont connu la colonisation de par leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc, ça nous semble important.
Oui.
Et puis, on s'adresse aussi au gouvernement. C'est l'autre affaire dans l'affaire. À tous ces gouvernements qui passent et qui bégayent à chaque fois lorsqu'il s'agit simplement de dire « Oui, et il y a eu crime de guerre. Oui, il y a eu crime contre l'humanité. Oui, il y a eu crime d'État. »
Alors, en mars, là aussi, justement, Emmanuel Macron, le chef de l'État, franchit un pas chaque année. L'année dernière, effectivement, il avait fait quelque chose, c'était une première pour un président. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il peut encore aller plus loin, Emmanuel Macron ?
Ben écoutez, nous, ce qu'on constate, c'est que surtout par rapport à l'année dernière, il a fait un sacré rétro-pédalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous a parlé d'une histoire commune, une histoire d'amour avec sa part de tragique, avec ces mots-là, il faut regarder en face et sans tabou, il faut œuvrer à la réconciliation des mémoires. Tout ça, ce sont ses termes à lui. Tout ça pour ne pas dire ce qui est la réalité historique et politique, c'est que ça a été un crime d'État. Et donc, évidemment, pour noyer tout ça, parce que son seul objectif, vous le savez, Macron, c'est un businessman. Et il a envoyé aujourd'hui avec Elisabeth Borne et 15 ministres faire du business là-bas en Algérie, en faisant d'ailleurs l'impasse sur tous les mouvements de protestation qui existent actuellement en Algérie, ce qui est un scandale, parce qu'on ne peut pas passer sous silence non plus le peuple qui demande sa part d'histoire et sa part de richesse, j'ai envie de dire. Et puis, il met en place une sorte de commission d'historiens mixtes, soi-disant pour établir les faits, alors que les faits sont largement connus.
Alors, 20 ans, on parle de 20 ans, 20 ans de silence sur le massacre, justement, de ces Algériens. Et on parle aussi d'une histoire des opprimés qui est encore à écrire. Vous le pensez ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je le dis avec d'autant plus d'amertume, vous savez, Adil, c'est que nos parents sont partis ou ils partent, ou ils sont très, très âgés. Et il est plus temps que jamais de revivifier tout cet aspect-là. Parce que les témoins vivants de ces atrocités, de ces crimes d'État, aujourd'hui... sont partis, sont morts, pour la plupart d'entre eux, perdent leur âme. Et on se doit par rapport à eux, mais y compris par rapport aux nouvelles générations. Parce qu'on estime qu'en termes de réparation, par exemple, parce qu'il faut parler aussi de réparation quand il y a des crimes coloniaux, eh bien que les contrôles aux faciès puissent cesser une bonne fois pour toutes.
Est-ce que, si je vous dis évidemment ces deux mots, ne pas oublier, c'est continuer d'exiger la vérité ?
Oui.
Vous répondez quoi ?
Absolument. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et exiger la vérité, ça passe aussi par le fait de ne pas oublier précisément. Donc, il y a un va-et-vient entre l'histoire et la vérité, parce que ça se conjugue ensemble. Et je dis pas simplement la mémoire, je dis l'histoire, parce que la mémoire, elle peut être plus ou moins partielle. Mais c'est heureux. On a aujourd'hui des archives, c'est très documenté, on a bien sûr des témoignages, donc ça c'est la mémoire, mais on a des archives de toutes sortes et qui prouvent aujourd'hui, on a des écrits, on a des policiers même qui ont témoigné, des politiques qui ont témoigné. Donc nous avons les faits, ils sont largement établis. Il faut maintenant pouvoir assumer cette vérité, et cette vérité c'est ce dont on parle, reconnaître qu'il s'agissait là d'un crime d'État, ce 17 octobre 61. Et reconnaître que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité.
C'est la raison pour laquelle vous voulez, justement, vous inviter nos auditeurs à se rendre de façon extrêmement nombreux pour ce 17 octobre 2022 de cette année, pour justement combattre tout ça. Et cette mobilisation est faite pour ça, Omar Slaouti.
Oui, c'est ça. C'est pas une mobilisation pour la mobilisation. Vous savez, il y a des fois, on veut faire des sortes d'hommages aux anciens martyrs, mais juste pour enterrer en réalité leur mémoire, quelque chose d'un peu symbolique, mais sans rentrer dans le fait politique de l'époque. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ces rencontres-là, ce soient des rencontres où les jeunes et les moins jeunes puissent se retrouver. Vous savez, il y a eu des psychiatres et des psychologues, algériens en l'occurrence, puisqu'on parle de ça, et en l'occurrence algériennes, qui ont écrit à quel point, sur les nouvelles générations, il y a un trauma colonial qui encore les traverse aujourd'hui, sans qu'ils s'en rendent compte directement. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire les traverse un peu à leur insu. Mmh. Eh bien, c'est une réalité. Et il va falloir, pour pouvoir vivre sainement, les uns et les autres, eh bien, faire en sorte que ces moments de vérité soient mis à nu et exposés dans ces rencontres avec des historiens, des politologues, au travers de films, au travers aussi de pièces de théâtre et aux deux livres. Je pense notamment à la librairie El Gorba, mon amour, à Nanterre, qu'il faut absolument fréquenter, qui demain, à 19h30, organise une rencontre, par exemple, sur cette histoire-là.
Dites-moi, dernière question, Omar Slaouti, est-ce que une de vos requêtes, c'est aussi, vous savez, des plaques commémoratives? Par oui. exemple, je prends l'exemple de la décision de la ville de Rennes qui a décidé, eh bien justement, de poser, de faire installer sur la place Saint-Germain à Rennes, en commémoration justement à tous ces nombreux Algériens, la sanglante répression, une plaque commémorative.
Oui.
Vous
oui,
en
oui,
pensez quoi?
Oui, c'est nécessaire, vous savez.
Vous c'est qui êtes élu. Plaque...
Oui, mais et vous avez raison. Évidemment, c'est pas la plaque pour la plaque, mais c'est une plaque qui marque l'espace, qui marque l'espace-temps. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'on a mis une plaque, les choses sont réglées. Mais c'est un début de reconnaissance. Je ne dis pas que c'est la fin de la reconnaissance. Encore faut-il après que sur la plaque, on s'entende sur ce qu'on y met. Et il faut parler réellement de crimes d'État sur ces plaques-là et pas simplement des termes un peu euphémisants, vous savez, où on tourne oui. un petit peu autour du pot, des mots type tragédie, drame, page sombre.
Et nous, non. Il nous reste quelques euphémiser. Il nous reste quelques secondes. Rappelez-nous l'événement qui se déroule le 17 octobre.
Alors, il y en a plusieurs. Donc, demain, à Nanterre, à 19h30, à la librairie El Gorba, mon amour, une belle rencontre autour d'un film qui s'appelle 10 949 femmes. La réalisatrice sera là. À Argenteuil, on vous donne rendez-vous devant la sous-préfecture à 14h, samedi. Et après, on a un énorme débat très intéressant. Et puis ensuite, on aura une rencontre théâtrale à Colombes, à 20h.
Oui.
Le dimanche 16,
merci.
Au marché d'Argenteuil à 10h30, rassemblement au marché, on ira ensuite à la scène.
Merci.
Etc. Allez sur la page Facebook. Merci Adil et merci l'équipe de Beurre FM.
Merci à vous, surtout Omar Slaouti. Merci infiniment. Donc à ne pas manquer tous ces rendez-vous. Militant antiraciste du collectif 17 octobre 1961, conseiller municipal sur la ville d'Argenteuil. On se retrouve juste après la pause pour parler, vous savez quoi, de ces 313 atteintes à la laïcité. C'était en septembre, à l'école, lycée, collège. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, c'est aussi vous, 18h26, si vous venez de le retrouver. Allez, je vais ouvrir l'antenne comme chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux et on va parler aujourd'hui, vous savez quoi, de la laïcité à l'école, au lycée, dans les collèges, parce que effectivement, il y a un communiqué que j'ai sous les yeux, un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, ils disent avoir signalé 313 signalements d'atteinte à la laïcité dans les écoles. Bon, les collèges, les lycées, les écoles... Bah, au mois de septembre, c'est 54% des incidents recensés sur le port de signes et tenues religieuses ou tenues religieuses. Bon, alors, ben venez nous dire ce que vous en pensez, très honnêtement. Venez me dire exactement est-ce que comment vous le vivez, est-ce que c'est une réalité, est-ce que vous avez eu affaire aux copains de vos enfants portaient la ibaya comme disent comme je l'entends là de plus en plus. Est-ce que vous voyez vos enfants vous parler à vous, parents? Justement, de ce phénomène de concours, vous savez, des uns et des autres, puisque tout est parti de TikTok. C'est-à-dire, nous allons, évidemment, tenter des, avec les uns et les autres, quelques aventures. Bon, 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000.
Alors, je voudrais vous entendre. Justement, là, je vous attends, la manière dont vous percevez vous-même la laïcité, venez nous en parler. Est-ce que vous considérez notamment que on doit faire un cours spécifique sur la laïcité pour rappeler aux jeunes ce que c'est que la laïcité? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Vraiment, c'est une question qui se pose de plus en plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il finalement, pour reconquérir certains jeunes, est-ce qu'il y a une manière peut-être d'amener ce que c'est que la laïcité? de prévenir, d'en parler, et comment en parler? Est-ce que vous pensez qu'il faut en parler davantage? 01 53 48 3000. Venez nous en parler, je vous attends au standard, sauf si le sujet ne vous intéresse pas, bah on va passer à un autre sujet, ça c'est pas un problème. La pénurie, les galères qui s'amplifient de plus en plus, les galères de l'essence pour aller trouver une station d'essence, ça t'es effectivement à la recherche de ce précieux, vous savez, carburant, qui devient précieux maintenant le carburant. Comment vous organisez? Comment justement vous faites? Lorsque, évidemment, vous déposez vos enfants, vous vous rendez au travail, 01 53 48 3000, le standard, je vous attends tout de suite maintenant. Là, on vous attend pour, évidemment, prendre le premier appel. 01 53 48 3000. Allez, à celui qui nous appelle le premier, on vous attend tout de suite. Deux sujets que je vous propose. La pénurie, l'essence, la galère qui monte de plus en plus. Et l'atteinte à la laïcité. 313 ont été recensés signalement, justement. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? Ou est-ce qu'il faut revoir les cours de la laïcité? Parlons-en justement. 01 53 48 3000, je vous attends. Il est important qu'on en parle ce soir. Comme chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et je voudrais vous entendre. Allez, c'est parti. Le premier appel, tout de suite, maintenant. Il nous appelle des Yvelines. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Oui, bah ça va très bien. Oui.
Vous nous appelez de quelle ville, des Yvelines?
Les Mureaux.
Les Mureaux, tout proche d'Auberville, d'Aubergenville.
Oui, voilà, tout près d'Aubergenville.
Et de Mantes-la-Jolie aussi.
C'est ça, oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mohamed?
Cheminot.
Alors, parlez-nous, quel sujet vous voulez qu'on traite?
Celui que vous voulez, si vous voulez déjà sur la laïcité.
Allons-y, sur la laïcité.
Oui, pourquoi pas, alors apprendre la laïcité aux enfants, mais pour moi, premièrement, c'est déjà de faire comprendre aux adultes qu'est-ce que la laïcité, parce que c'est un grand bordel.
Ouais.
C'est
le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, vous avez raison, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, on parle de laïcité pour les enfants, mais les adultes, que ce soit des journalistes ou même des ministres, ne savent pas c'est quoi la laïcité.
Ouais.
Pour moi, la laïcité, c'est le respect de tout le monde et le respect des religions de tout le monde, de pratiquer sa religion. Ouais. Quand j'en regarde les journalistes, la télé, le gouvernement, je pense qu'il y en a. Faudrait peut-être déjà leur apprendre qu'est-ce que c'est la laïcité.
Qu'est-ce que la laïcité? Donc vous considérez que c'est pas que les gamins à l'école, mais également aussi les adultes.
On retrouve le code neuf. Il y a beaucoup d'adultes qui font des amalgames, qui confondent laïcité comme quoi, parce qu'on est laïque, on doit être athée. On doit pas être d'avoir religion, alors que la laïcité.
Certains pensent encore ça, vous êtes convaincu?
Vous avez qu'à allumer votre télé.
Oui.
Chaque fois qu'il y a une femme qui a un foulard, déjà on la laisse pas parler, on lui dit oui, on lui parle de laïcité. Chaque fois que le gouvernement a lancé ce débat, il y a eu des cas au niveau du Front National où une femme voilée n'a pas voulu se faire servir dans une banque, ce qui s'est passé avec une maman qui a accompagné son enfant.
Oui.
On a beau en reparler, que ce soit comme ça, mais déjà, il faut que les adultes sachent qu'est-ce que la laïcité avant de l'apprendre aux enfants. Parce que si déjà le professeur qui l'apprend aux enfants ou les parents ont une définition erronée de la chose.
Ça, j'entends ce que vous dites, Mohamed, et c'est intéressant, effectivement. Je pense que peut-être qu'il va falloir peut-être soumettre une proposition au ministre de l'Éducation nationale.
Nous expliquer
une formation, une formation autour de la laïcité pour les parents, tout simplement.
Oui, c'est pour les parents et puis pour tout le monde.
Que
les gens sachent qu'ils arrêtent de faire des amalgames entre laïcité et tolérance.
Merci Mohamed pour cette proposition.
Oui, franchement, même moi, mes enfants, je discute avec eux. Mes enfants, moi je suis français, d'origine marocaine. Mes enfants sont français. Et moi, mes enfants ont 13 ans et 14 ans. Ils me disent, mais pourquoi ils ne me considèrent pas comme des Français?
Ils vous disent ça?
Mais
ils
non,
vous disent,
oui, ils disent,
ou ça dans les écoles, aux mureaux, ou ça au collège?
Non, en général, quand ils écoutent la radio, les informations, quand ils regardent la télé, ils nous disent oui. Pourquoi ils ont un problème contre les musulmans? Pourquoi ils disent pas qu'on est? Pourquoi ils disent qu'on n'est pas français?
Ouais.
Mais vous imaginez quand.
Et vous leur répondez quoi à vos enfants?
Je réponds quoi à mes enfants? Je lui dis écoutez, je leur ai dit faut pas écouter ce que les gens disent. Il faut que vous fassiez la part des choses. Vous êtes français, vous avez deux cultures. Je dis être musulman, ça n'empêche pas d'être français. Mais je lui dis maintenant, vous êtes grand. Faut savoir qu'il y a des adultes qui disent n'importe quoi, faut pas y répondre. Mais il faut être intelligent, il faut faire la part des choses. Mais bon, vous voulez que je vous dise quoi, quand votre enfant a 12 ans, il vous sort ça,
ouais.
C'est qu'il y a un énorme souci, et je trouve que c'est un peu con. Bon. C'est comme là, bon, les challenges et TikTok, bon, il y a beaucoup d'enfants qui sont fait bouffer le cerveau par Internet, qui font des TikTok de tout et de n'importe quoi, qui regardent les influenceurs, ils croient qu'être influenceur, c'est un métier, c'est un mode de vie. Ça aussi, ça n'a pas aidé notre jeunesse.
Bon. Eh bien, écoutez, très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, effectivement. Merci, cher Mohamed Demiro. Le quoi de neuf avec quelques minutes de retard, 18h34, et on retrouve les auditeurs au 0153 48 3000. C'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, c'est avec le grand Pascal Boniface, géopolitologue, mais le président fondateur de l'ERIS. Mon cher Pascal Boniface, vous avez décidé de nous parler de la bombe nucléaire, la guerre en Ukraine, évidemment, qui prend de l'ampleur. Mais, est-ce qu'on peut parler, évidemment, de guerre nucléaire ? Allons-y.
On a parlé dans son intervention, il a dit que au cas où la Russie attaquerait, utiliserait une arme nucléaire tactique contre l'Ukraine, la France ne réagirait pas avec une arme nucléaire. Alors, ça a suscité beaucoup de débats, et effectivement, l'arme nucléaire pour un pays comme la France, c'est là pour défendre ses intérêts vitaux, et donc, en fait, pour elle-même. Et ses plus proches alliés, et l'Ukraine, c'est plus loin. Donc, personne n'imagine que la France aurait utilisé l'arme nucléaire au cas où le Russie l'aurait elle-même utilisée. Mais fallait-il le dire ? Parce qu'en fait, la dissuasion, c'est pas la certitude de ce que l'on va faire, c'est la crainte de ce que l'autre peut faire. Et donc, normalement, en termes de dissuasion, moins on en dit, mieux on se porte. Alors, le grand débat, là, maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il y a un risque que la Russie utilise une arme nucléaire tactique parce que elle serait un peu en difficulté sur le plan militaire et elle voudrait rétablir la situation avec une arme. On ne peut pas exclure cette possibilité parce qu'on ne peut rien exclure tellement cette guerre devient difficile à déchiffrer. Mais je ne crois pas que Poutine puisse prendre ce risque, même s'il a déjà commis des erreurs. Parce que s'il le faisait là, c'est la Russie qui serait coupée du reste du monde. Parce que pour l'instant, même s'il y a eu un vote à l'ONU où 140 pays ont condamné l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie, à part les pays occidentaux, aucun pays n'a pris de réelles sanctions. Beaucoup de pays continuent d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. Si la Russie employait l'arme nucléaire, ça changerait. Et là, elle serait isolée. Et donc, en fait, pour éviter ça, comme c'est pas Poutine qui décide seul, mais qu'il y a aussi le ministre de la Défense, le chef d'État des armées, on peut penser que ses plus proches conseillers l'empêcheraient, que, parce qu'en disant là pour l'instant c'est Poutine qui perd, mais la Russie peut survivre. Si la Russie utilisait l'arme nucléaire, là elle serait réellement mise au banc des nations, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, bien sûr, lorsqu'on parle de nucléaire, il faut toujours faire attention, il ne faut pas avoir trop confiance, mais on peut néanmoins espérer de façon légitime qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire.
Oui, vous avez raison. Vous savez, j'ai entendu dire le chef de l'Union européenne, d'ores et déjà, évidemment, parler de l'armée européenne. Si jamais Poutine tentait une invasion nucléaire en Ukraine.
Oui, alors, mais il y a. Une fois encore, il pourrait utiliser une arme nucléaire pour rétablir la situation, mais dans la doctrine, l'arme nucléaire ne sert pas à gagner les guerres parce que c'est là ouvrir le champ sur du n'importe quoi.
Merci.
Les pays occidentaux ont dit qu'ils ne feraient pas la guerre à la Russie, donc ils n'auraient pas envoyé des armes nucléaires contre la Russie, mais elle serait là un réel paria et elle serait coupée de tout contact, alors que pour l'instant, elle n'est coupée que du monde occidental.
Merci pour vos précieux regards géopolitiques, mon cher Pascal Boniface. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci
et au plaisir. C'est le président fondateur de l'ERIS et géopolitologue, justement. Nous continuons de prendre. Tiens, j'ai le temps de prendre un auditeur. Tiens, Amadou de Grenoble. Et ensuite, après, les autres, 0153 48 3000. Amadou, bonjour.
Bonjour, Ali Parta. Bonjour pour votre émission. C'est très intéressant.
Merci.
C'est très important. Moi, je viens un peu sur le pétrole, là. Sur
oui,
la grève.
La pénurie.
Ouais, ça fait effondrement économique. Et on dit la démocratie, il faut négocier la critique constructive avec l'État. Mais c'est qui a le patron, ils ont leur institution, ils peuvent embaucher, débaucher, comme il entend. Mais ça ne fait pas du mal à l'État. Ça fait du mal aux pauvres citoyens. Vous avez compris, parce qu'ils s'en sortent. Voilà. Ben, je reviens aussi sur la laïcité. Ben, la laïcité, bon, c'est la République française qui a mis ça, bon, sur nos lois. Ben, nous, des citoyens, notre religion, par exemple, pour moi, l'islam, je ne veux pas le syncrétisme, il est jumel du christianisme. Le problème, il est que la laïcité, il l'utilise contre l'islam, parce qu'en tout cas, il faut apprendre, désapprendre.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pratiquants. On a nos sœurs musulmanes qui portent ça, dans les bus, tout cela. Donc, ils savent très bien que l'islam, communautairement, ils sont divisés. Même certaines sœurs, je ne critique pas, je ne jette pas la pierre à ma famille religieuse, qui disent que moi, je n'ai pas de problème, hein, je suis privilégié, mais d'autres musulmans. Peut-être moi, ma condition, bon, je suis privilégié, mais je ne crois pas que tous mes frères et mes sœurs sont privilégiés à ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne respecte pas l'islam, parce qu'il est politisé, on est minoritaire, on ne comprend pas encore. La laïcité, c'est l'indépendance de la religion et de la politique. La politique ne se relève pas de la religion ne se relève pas de la politique.
Merci, donc, mon cher Amadou.
À d'autres auditeurs.
Merci à vous, l'auditeur fidèle des fidèles sur la ville de Grenoble. Allez, on va marquer une pause, 01-53-48-3000. Vous continuez de nous appeler, de réagir justement sur la pénurie du carburant, mais également aussi cette atteinte à la laïcité. On parle de 313 signalements d'atteinte à la laïcité dans les écoles, les collèges, les lycées. Bon, eh bien, je posais une question. Il y a même Mohamed Desmureaux qui proposait de former les parents, justement, à la laïcité. Qu'en pensez-vous? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h45, Les Informés, c'est aussi vous, au 01-53-48-3000, vous le savez. Allez, avant de retrouver le face-à-face, vous le savez, on parle de deux sujets, la pénurie de carburant, et on parle également aussi de cette laïcité qui est touchée, pointée du doigt par le ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, on va en parler. Donia, du 98. Ah bon? Donia, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous nous appelez de quelle ville?
Saint-Ouen-sur-Seine.
Saint-Ouen-sur-Seine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Donia?
Actuellement, je suis mère au foyer.
Mère au foyer, bon.
Parce que j'ai vu
sur mon écran 98, je dis c'est un département.
Non, il a mal
ça.
Compris, je pense. Il a ouais, mal
je pense qu'il a. Oui, ouais, ça arrive, ça, pas, arrive. Pas, ça arrive.
Ça arrive, ça arrive.
Donia, on vous écoute. Bon.
Voilà, donc il y a tellement de choses à dire. Pénurie, effectivement, là-haut, on voit que les routes sont un peu désertes à cette heure-ci, donc je ne sais pas si c'est le temps, la pénurie, enfin tout.
Ah ben, je peux vous dire que le périphérique parisien, il n'est pas comme d'habitude.
D'accord, bon, ben moi,
c'est vrai, il est moitié
vide. On va dire, c'est désert, c'est le désert. C'est le désert,
ben c'est l'essence,
aujourd'hui.
C'est la pénurie.
Ouais, non, mais il me reste 3 bars.
3 bars. Jamais on les compte. Non, mais vous vous rendez compte maintenant? Non, mais on allait. Non, mais ce qui est terrible. Attendez, vous vous rendez compte? Rendez-vous compte de ce que vous venez d'en train de nous dire. Non, ça veut dire que nous tous, on est en train de compter. Merde!
Voilà,
j'ai perdu un trait! Vite!
Non, mais...
Il faut que je fasse des économies!
Ben oui, des économies, voilà.
Oh là là,
urgent aujourd'hui.
Vous rendez compte à quoi on est?
Ouais, mais on vit en arrière, je pense, pas mal. La société est assez. Ouais, on sait plus où on est.
On ne sait plus où on est.
On ne sait plus. Donc les médias, en fait, nous envahissent. Hein.
Ouais.
Les nouvelles technologies aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est bientôt la tombée de la nuit. Là, les journées aussi raccourcissent, on va dire. En fait, moi, j'ai des enfants. Donc moi, je suis concentrée sur les enfants, sur l'éducation essentiellement. Donc étant donné que vous parlez de laïcité, on écho. Je prends un écho quand je parle. Pourtant, je n'ai pas de haut-parleur.
Oui.
Donc voilà, au niveau des enfants, né en France, donc est-ce qu'il faut que je le dise forcément lorsque je parle à mes enfants ou lorsqu'on les scolarise? Je ne pense pas, hein, c'est pas essentiel. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de changements, de bouleversements. Donc effectivement, les médias nous ont inondés, on va dire. Et les publicités aussi. Donc moi, j'étais contre, on va dire, on a été contre, on va dire, hein, au niveau de l'apprentissage, d'éducation des enfants. Donc, on ne m'a pas donné, on va dire, une notice, hein, parce que j'ai eu mon premier enfant. Donc, on a essayé de suivre. Donc, au niveau, on va dire, grossesse, en fait, c'est un suivi, en fait. Mais bon, on répond oui, automatiquement. Ouais. Hein, donc, voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, durant mon parcours, on va dire, scolaire, scolaire, on va dire. J'ai eu un parcours scolaire. Ensuite, je suis originaire de province. Donc j'ai dû, on va dire, quitter ma petite province.
Mais quel rapport avec la laïcité ? Je ne saisis pas bien.
Région parisienne. Enfin, là, je passe d'un sujet à un autre.
Bah oui, parce que.
Pour les conséquences.
Ne nous dispersons pas, ma chère Donia.
Oui, on ne va pas se disperser, mais bon, il y a tellement de choses à dire, on va dire. Quand vos enfants grandissent et qu'on vit dans cette société actuellement en 2022 où il faut limite laisser la voiture dans le garage ou peut-être au bord d'une station service, ouais, étant donné qu'on tombe en panne. Votre fille aujourd'hui, on va dire la laïcité d'aujourd'hui.
Bon.
Je sais pas, est-ce qu'on doit remettre des blouses?
C'est un peu confus.
Est-ce qu'on doit remettre des blouses? Ouais. Enfin, être unique, on va dire, on est dans l'école publique privée. Donc voilà, il n'y a pas. Bon. Soit on a de l'argent, soit on a des moyens, on va dire, soit on n'en a pas.
Bon. Donc, bah, merci Donia d'être intervenue.
Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Enfin, j'ai rebondi par rapport au papa qui
a proposé
tout à l'heure.
Oui.
Voilà, au Muro.
Oui.
Et je suis à 100% d'accord avec lui.
Bon, bah écoutez, voilà que Donia est d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est pas.
Voilà. Donc le gouvernement aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on doit marcher, est-ce que je dois cultiver mon potager sur mon balcon de 2 mètres carrés, est-ce que je ne sais plus.
Bon, eh bien écoutez, on va suivre ça de très près. Merci ma chère Donia, merci.
Au plaisir.
Au plaisir à vous. Le face-à-face, c'est parti tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000. Le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le président de l'IPSE, c'est Emmanuel Dupuis, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va ?
Ça va super bien.
Ça va la petite tournée médiatique ?
L'amorosité ambiante.
Oui, l'amorosité ambiante et puis votre tournée médiatique ?
Oui, mais...
Je vous vois régulièrement maintenant, surtout à LCI, tiens.
Pas seulement.
Oui ?
Pas seulement. Par exemple, ce matin, j'étais à LCI et aussi à France Info. J'essaye de basculer d'une chaîne à l'autre pour essayer de porter la bonne parole. Peut-être en rapport à ce qui a été dit avec... par les précédents auditeurs, pour essayer quand même de positiver quand même, parce qu'il y a beaucoup de raisons de ne pas avoir le moral, il faut quand même essayer d'en garder un peu.
Face à vous, c'est Rudy Cazzi, bonjour. Il est élu d'abord
à Saint-Germain-l'Herpajon,
exactement, à quelques kilomètres de Paris.
C'est cela.
Et chez moi, il y a... Et délégué général de l'association des élus de France.
C'est ça, ouais.
Il faut que tout le monde aille voir chez Rudy.
Et oui, chez moi, il y a encore un peu d'essence
dans
le service de supermarché. Donc,
allez-y.
Si ça peut intéresser un station de service Intermarché.
T'es vendeur maintenant ?
Revendeur
d'essence,
si c'est de l'audience médiatique que vous me donnez, s'il vous plaît.
Non, mais par contre, c'est sérieux. Il y a eu des cas de revendeurs d'essence.
Oui, c'est vrai.
Des gens qui ont littéralement pillé les stations et qui ont vendu l'essence plus cher.
Ouais.
Pour ça qu'elles sont de plus en plus contrôlées, les stations.
Et qu'il y a des militaires. Oui.
Messieurs, réaction sur ce long fil d'attente, justement. Des stations fermées de plus en plus, ces galères qui s'amplifient. Et puis surtout, ces artisans, ces personnels soignants, ces médecins, la police, bref, faute de carburant, ne peuvent plus aller bosser. Emmanuel Dupuis, que faut-il retenir ? Et puis, le mouvement de guerre, vous avez vu l'absus, le mouvement de grève est reconduit.
On parle,
Oui, alors il est reconduit, en même temps il y a des négociations qui vont commencer à 20h, si j'ai bien compris, entre la CGT et la ministre des Transitions énergétiques, quel nom ô combien cavalier dans cette période. Je crois que ça a été dit par une des auditrices, je rebondis, le problème finalement, c'est qu'on a deux radicalités de part et d'autre. La radicalité de l'employeur, qui a fait des super profits, on va en parler quand même. Il faut quand même avoir à l'esprit que Total n'est pas à plaindre.
Oui.
Enfin, Total Energy n'est pas à plaindre. Ils ont gagné près de 11 milliards d'euros l'année dernière, seulement à l'occasion du premier semestre 2022. Vous voyez que c'était hier. Et puis d'une radicalité aussi des syndicats. Et évidemment, chacun se cabre, chacun se mue dans sa certitude. Et forcément... la méthodologie qui n'est plus là, et je crois que c'est ça le langage politique ou le message politique à retenir, le langage de la capacité de médiation, la capacité de dialogue entre les syndicats et les employeurs, entre le gouvernement et le Parlement. Il n'y a plus de dialogue. Et donc comme il n'y a plus de dialogue, chacun reste sur son camp à soi, sur sa position. Total estime qu'elle a fait un geste. Quel geste ? Un mois de salaire. 6% de revalorisation, au regard de l'inflation, c'est pas grand-chose. Ça couvre juste l'inflation. Et encore, c'est 6% pour les Français, enfin les salariés français. Le groupe Total est un groupe international, faut-il le rappeler. Donc je crois qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté, de mauvaise foi du côté de Total Énergie. Il faut quand même le rappeler, comme je le redis, hein, une entreprise qui a fait des super profits et qui n'a pas été taxée abusivement. Et puis de l'autre, des syndicats qui prennent en otage la population française, syndicats CGT en particulier, puisqu'ils sont majoritaires dans les 5 raffineries qui sont en grève. Et puis après, un constat, notre pays peut être déstabilisé parce que nous n'avons pas suffisamment de raffineries aussi. Nous n'avons que 6. Vous voyez, il suffit qu'on en prenne en otage 5 et on se retrouve avec 30% des stations. Donc aussi, c'est une réflexion sur la concentration. Il y a trop de concentration, trop de stations majoritairement issues du principal exploitant énergétique qui est Total.
Total, ouais.
Il faut peut-être aussi diversifier. Alors, il y a un peu d'Exxon, ExxonMobil et Dassault, mais il n'y a pas suffisamment de petits. Et ça, je crois que c'est important et ça doit nous interroger et peut-être nous servir pour l'avenir.
Rudy Casi.
Moi, ce que je déplore là-dedans, c'est le timing en fait avec lequel les syndicats, donc la CGT en particulier, mais d'autres aussi, mais ce sont les plus emblématiques là-dessus, en fait, mènent cette grève, sachant que les super profits enregistrés par Total ne datent pas de cette période actuelle, que ça a commencé déjà depuis l'année dernière, mais cette année, c'est assez faramineux. Et on, de façon globale, sur les grandes sociétés du CAC 40, on enregistre plus 33% de super profits depuis quoi? Depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc tout ceci est progressif. On atteint aujourd'hui des records jamais atteints auparavant. Évidemment, c'est des records. Mais ce n'est pas cette année que les super profits ont atteint le niveau que l'on connaît. Aujourd'hui, on a atteint des records cette année, mais bien avant, déjà, des super profits avaient été atteints. Donc dans le cadre de Total, ce qui est dommage, effectivement, c'est que les grévistes prennent en otage, effectivement, la population, mais en choisissant bien sa période. Ils le font au moment où le prix du pétrole a déjà bien augmenté, ce qui est déjà assez problématique. Et on sait à quel point le prix du pétrole est quelque chose d'assez important pour les Français. On parle de Français qui appartiennent, qui vivent souvent dans des zones sinistrées sur le plan économique, où les industries ont mis les voiles, pardonnez-moi l'expression, ce qui a donné, évidemment, les gilets jaunes en 2018. Donc, ce timing dans lequel s'inscrit cette grève, effectivement, n'est pas frappé en fait du sceau de l'intérêt général en parlant des Français. Et en particulier, effectivement, ces grévistes font partie aussi de ces Français qui sont de façon générale, qui sont pas dans la zone parisienne et qui ont eux-mêmes besoin de ce pétrole pour aller bosser. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est anormal. Maintenant, on parle aussi quand même pour les gens de Total, on parle de grévistes, donc de travailleurs chez Total qui font quand même partie de ceux qui sont dans le haut du panier parmi les opérateurs de raffineries, c'est-à-dire ce sont ceux qui gagnent le plus dans les zones, dans les autres raffineries. Le salaire d'entrée, c'est 1 300 euros. Les mieux payés dans les notamment chez Total, chez un opérateur de raffinerie, je crois qu'on est à peu près à 3 000 euros brut. Donc ils ont déjà des salaires assez intéressants quand même par rapport à d'autres, oui, et puis ça peut, avec les intéressements, ça peut monter jusqu'à
qu'est-ce que vous voulez dire par là, ils sont pas légitimes,
les intéressements et les participations. Non, ils sont bien lotis. Par contre, ils ont raison de demander plus au regard des super profits que Total enregistrés, des super profits records, faut-il le rappeler. Mais par contre, il faut aussi qu'ils se disent qu'ils sont mieux lotis que d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un peu plus, on prend en otage toute la population, sachant que vous êtes déjà un peu plus au-dessus du panier. Donc je trouve qu'il y a un peu d'égocentrisme dans cette revendication et qu'elle choisit mal son timing au moment où tous les Français accusent déjà le coût d'une augmentation du prix du pétrole. Je trouve que c'est assez égoïste. Je peux le comprendre vis-à-vis des super profits Total, mais dans le timing, pour moi, est égoïste.
Voilà. Emmanuel Dupuis et Rudy Casi, dites-moi, est-ce qu'on s'oriente vers une sortie de crise?
Non.
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 Donc ça va durer?
Bah oui, puisque les positions sont figées.
Ouais.
En plus, elles arrivent dans un moment, ces positions figées arrivent dans un moment charnière, clé, la mobilisation en vue d'une grève générale, ou en tout cas une mobilisation générale lancée par un parti politique, mais qui semble faire tache d'huile, puisque à l'heure où nous parlons, depuis maintenant quelques heures, les chauffeurs routiers vont se mettre en grève également, pour paralyser encore plus l'acheminement des produits de première nécessité ou alimentaire. Donc on est dans une situation, je puis me tromper, qui ressemble beaucoup à celle qui avait préfiguré le mouvement des Gilets jaunes, une agglomération de colère, une agglomération de revendications, fussent-elles légitimes ou pas, c'est pas le problème. Enfin, c'est pas le problème. C'est un problème annexe avec une mobilisation politique très forte de ceux qui appellent Nathalie Arthaud de Force ouvrière, non pas de Force ouvrière, de
si.
Force ouvrière, oui,
Force ouvrière, oui. Ouais. C'est, ou Sandrine Rousseau, la députée.
Ou Sandrine Rousseau, ou tout simplement Jean-Luc Mélenchon, hein, qui a appelé à une mobilisation générale bien au-delà de sa seule famille politique. Donc, tous les ingrédients d'une pression sur le gouvernement qui, je dois l'avouer, aurait pu quand même un peu anticiper le fait que Total n'allait pas bouger, et donc mettre la pression sur Total avant qu'il ne l'ait fait il y a quelques heures. Car Total a bougé seulement parce que le gouvernement l'a menacé. Je rappelle que Total est une société par action, privatisée, mais dans laquelle l'État a une participation forte, de 30 à 35%. Donc, l'État avait une possibilité de mettre pression. Et il ne l'a pas activé jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est aussi une erreur politique.
Rudy, quasi.
Moi, je pense effectivement sur le climat social que c'est très tendu. Pour les Gilets jaunes, il s'agissait d'une forme d'insurrection populaire, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de Français issus surtout des zones périphériques ou des territoires, comme on dit maintenant. Tandis que là, effectivement, c'est un conglomérat de différentes colères qui, jusqu'ici, étaient encore sous le tapis. Il faut pas, je pense qu'il faut pas sous-estimer le désarroi des Français post-Covid. Vous voyez, cloîtrés pendant le confinement, une crise économique qui s'ajoute à une forme de récession, la France qui a du mal à emboîter le pas, même si c'est vrai que peut-être le commerce international a favorisé un petit essor économique au sortir, puis avec la consommation qui a augmenté après le premier, voire le deuxième confinement, il y a quand même du côté de la fonction publique aussi une grogne, que ce soit au niveau des soignants, que ce soit au niveau des pompiers, il faut pas sous-estimer cette grogne et cette capacité finalement à vouloir crier haut et fort son désarroi, alors qu'autant des Gilets jaunes c'était uniquement les Gilets jaunes aujourd'hui, et pourtant à l'époque les syndicats avaient essayé de entre guillemets de récupérer le mouvement, ils n'y étaient pas arrivés. Aujourd'hui ils sont en train de mener la danse, pardonnez-moi l'expression, et derrière pourrait s'ajouter effectivement tous ces Français, y compris une relance des Gilets jaunes qui pourraient à nouveau venir là-dessus. Donc je trouve que le climat est assez explosif. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu autant. Alors, je dis pas que il y aura des violences telles qu'on en a connues, des affrontements comme du temps des Gilets jaunes. Mais en tout cas, il y a un tel niveau aujourd'hui de manque de confiance en l'avenir, avec cette guerre en Ukraine dont on sait quand est-ce qu'elle va s'arrêter, avec ses conséquences économiques sur les denrées alimentaires dont on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, avec des aides de l'État dont on sait qu'elles vont s'arrêter à un moment donné. Donc, quid de l'après hiver 2023 sur le soutien de l'État en matière de bouclier tarifaire, etc. Il y a beaucoup trop d'incertitudes et en même temps des inquiétudes qui pourraient justifier une espèce d'embrasement total et général. Je n'espère pas qu'on va y arriver. Effectivement, je pense que l'État, le gouvernement actuel, s'est trop retrouvé, on va dire, après l'élection présidentielle, a essayé de retrouver un petit peu plus de poids au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un peu plus de billes pour mieux gouverner, et n'a pas été dans la prescience, pardonnez-moi l'expression,
alors justement,
du temps moyen et du temps long.
Justement, vous me permettez une belle transition, puisqu'on va parler de ce vote du budget. Oh, vous savez quoi, les députés adoptent une mesure sur les super dividendes contre justement l'avis du gouvernement. Quelle grille de lecture doit-on avoir, Emmanuel Dupuis ? Comment doit-on comprendre cet amendement ?
Déjà, c'est un camouflet pour le gouvernement.
Oui.
Je rappelle qu'il a été voté par un député, Jean-François Mattei, qui est membre du MoDem, qui est supposé être un partenaire du gouvernement. Et que du reste, 19 des membres du Parti Renaissance l'ont voté, dont le suppléant de Mme Borne. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, est-ce que c'est un couac, ou est-ce que ça prouve qu'il y a du délitement, un peu de flou dans l'unité politique, et je n'oublie pas que un certain nombre de députés Horizon aussi se sont abstenus, donc laissant passer ce texte ou cet amendement plutôt.
Manuel Bompard, le député, lui il dit la Macronie s'effondre.
Mais il a raison. Premièrement, si sur ce type de texte, c'est quand même un texte lourd de conséquences, sur lequel il y avait eu des admonestations assez fortes par Emmanuel Macron au Conseil des ministres, en disant qu'il n'était pas question de rajouter par rapport à cette question, ou en tout cas qu'il ne fallait pas en faire un vecteur de populisme électoral, si sur cette question-là, il y a un peu de délitement au sein de la majorité, je peux croire que le 49-3 va être utilisé
très rapidement
pour faire passer un autre texte emblématique qui risque aussi de connaître le même sort qui est celui de l'allongement de l'âge de la retraite.
La réforme de la retraite. Effectivement. Rudy Kazi.
Moi, je pense qu'il y a un biais très politique dans cette décision. On rappelle effectivement, comme Emmanuel l'a dit, c'est un député du Modem qui l'a déposé. Donc évidemment, jamais sans l'assentiment, sans le consentement de François Bayrou. François Bayrou qui... c'est vrai que là, on parle quand même d'un amendement sur les super profits, faut-il le rappeler, qui est déposé dans le cadre du projet de loi de finances, de budget, qui est voté à chaque fois en fin d'année, tous les ans. Et en général, effectivement, ça lance quelque part la saison politique de l'année qui vient. Donc si déjà il y a des députés, entre guillemets, qui font sécession là-dessus, ça la fait mal, ça l'affiche mal pour Renaissance. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que on a François Bayrou, donc qui est dans la majorité présidentielle, qui est aussi haut-commissaire au plan, donc qui est quand même partie prenante du gouvernement, qui est capable, on va dire quand même en basse tension, de mener aussi quelque part ces belligérances-là à l'Assemblée. Moi, tout ça m'intéresse d'un point de vue purement politique. C'est-à-dire, on a l'impression que François Bayrou veut se faire entendre du côté de la Macronie. Vous voyez ce que je veux dire? Et a priori, il ne cache absolument pas aussi ses ambitions présidentielles pour 2027. Le biais est intéressant pour lui parce que la question des super profits, on sait que François Bayrou, c'est un de ses chevaux de bataille. L'argent, la finance... Vous voyez, le pamphlet qu'il avait signé contre Sarkozy dans un de ses livres, il est dans cette vision-là. Donc, de ce point de vue-là, on pourra se dire que c'est pas étonnant finalement qu'il mène ce combat et qu'il se désolidarise de la Macronie en ce sens. Mais de l'autre, moi, j'y vois quand même un intérêt politique de François Bayrou. Voilà, c'est quand même des accords. Ce sont pas des gens purement de la Macronie, ce sont quand même des gens qui essaient toujours de lutter pour avoir quand même une forme, enfin il y a toujours une bataille de, comment dire, une lutte de force au sein de la Macronie. Je pense qu'il essaye aussi de jouer cette carte-là, j'ai l'impression.
Vous partagez-vous, Emmanuel Dupuy?
Oui,
surtout que vous avez parlé tout à l'heure de camoufler pour l'exécutif. Camoufler, c'est une série de revers.
Oui, je partage et je rajoute que ça permet effectivement aux oppositions, finalement, de se lier entre elles, d'une certaine manière, alors qu'elles n'étaient pas d'accord sur le fond. Sur la forme, elle voit bien qu'il y a là un aveu de faiblesse du gouvernement, et on pourrait très bien avoir les Républicains qui s'y mettent, et à ce moment-là, le gouvernement serait obligé de dissoudre, parce qu'il n'aurait plus la capacité, sur aucun texte, de passer. Donc évidemment, on avait dit que l'automne serait très dur et particulièrement chaud pour la Macronie, et bien il n'a pas suffi d'une semaine, parce que ça fait qu'une semaine que les parlementaires ont repris, pour que se rendre compte que ce Parlement, tel qu'il est là, dans la configuration, est ingouvernable pour le gouvernement.
Ingouvernable pour le gouvernement, y compris au sein de Renaissance.
Bah, la nouveauté, c'est que ça tangue un peu dans Renaissance, aussi.
D'autant plus que le Rassemblement National a voté cet amendement. Hein, donc, alors que les Républicains sont un petit peu cachés derrière, donc, derrière Renaissance, avec quelques abstentions. Mais
les Républicains jouent le jeu de l'attentisme électoral pour le moment opportun, faire la différence. Car s'ils basculent, là, il n'y a même plus de majorité relative.
Vous pensez vraiment qu'ils jouent le jeu de l'attentisme, les Républicains?
Ils font passer leur singularité et l'importance qu'ils constituent comme groupe charnière. Pour bien comprendre au gouvernement que c'est par eux que passent ou ne passent pas les lois qu'ils veulent voter.
Ouais, d'autant plus que, d'une certaine manière, en tout cas après l'élection législative, les Républicains se retrouvaient dans une position un petit peu... Voilà, inconfortable du fait qu'ils aient perdu des sièges, etc. Mais qu'ils en aient suffisamment pour envoyer des signaux à la Macronie qui, on se la rappelle, tout de suite après, ont commencé à draguer, entre guillemets, les Républicains pour essayer de composer une nouvelle force qui ne dit pas son nom, mais pour essayer de doubler, on va dire, pas leur siège en soi, mais on va dire le nombre de personnes, de députés qui pourraient se rapprocher d'eux sur le plan idéologique. Et finement, à l'époque, déjà Christian Jacob, avant qu'il ne cède sa place à l'intérim qui va évoluer bientôt pour en congrès en cette fin d'année, mais en disant, écoutez, nous, on va être constructifs, mais on votera pas tout non plus. On a notre ligne directrice, etc. Donc là-dessus, ils jouent habilement. Ils sont en position défavorable parce qu'ils ont perdu des sièges, mais ils conservent encore un peu d'influence, surtout au niveau de la Macronie. Et de cette façon, ça leur permet aussi de se désingulariser du Rassemblement national, malgré qu'il y ait des députés républicains qui en sont plus ou moins proches, en tout cas par les idées. Voilà, je parle d'Éric Ciotti.
Autre sujet, messieurs, vous savez quoi ? Eh bien, parce que le temps file, évidemment, il est 19h10 bientôt. Et j'aimerais qu'on traite, vous savez quoi, de ce sujet. Un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, chers amis. J'ai ouvert l'antenne tout à l'heure, vous avez entendu les auditeurs. 313 signalements d'atteinte à la laïcité dans les écoles, les collèges, les lycées, justement au mois de septembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement un chiffre. 54% des incidents recensés le sont pour porte de signes et tenues religieuses. Vous savez que sur TikTok, certains ont lancé des défis justement entre eux et notamment à défier même les lois, défier les décrets, défier l'État, défier le ministère du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il y a un auditeur tout à l'heure, Demuro, qui s'appelle Mohamed. Il a fait une proposition. Il a dit effectivement, alors moi j'ai posé la question, faut-il peut-être envisager une formation un peu spécifique auprès de ses élèves ? Et il a dit, mais moi j'irai plus loin. Ne faut-il pas tout simplement former les parents, les adultes, justement, pour parler de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? Emmanuel Dupuis.
C'est un sujet que je crois connaître assez bien, puisque nous avions travaillé...
Et s'il avait raison, Mohamed ?
Mais il a raison, et en même temps, il n'a pas raison, parce que ça existe déjà. Dans tous les lycées, il y a une charte de la laïcité. Dans tous les collèges et lycées, il y a une charte de la laïcité, en 10 points, qui avait été élaborée avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Éric Ferrand, un ancien adjoint au maire de Paris, chargé de la petite enfance, où nous avions décidé de manière très simple.
Bah alors, si elle existe, cette charte, alors pourquoi on ne l'utilise pas ?
Et parce que il en va de la responsabilité du chef d'établissement, de la mettre en avant, de la faire vivre et tout simplement de la faire comprendre aux élèves comme aux parents. Donc, premièrement,
il y a
des outils qui existent.
Elle existe.
Ça, la charte sur la laïcité existe. Deuxièmement, il y a aussi au niveau des élèves, que ce soit au niveau du collège ou au niveau des lycées, des temps d'apprentissage. Je rappelle qu'il y a un temps d'apprentissage, c'est certes peu, 3 heures, au niveau du collège et un petit peu moins au niveau du lycée, parce qu'on estime que ça a été déjà inculqué au sens propre du terme au niveau du collège, autour de la question donc de l'apprentissage à la vie en commun, la vie en société, appelons ça la laïcité, en tout cas le bien, l'intérêt général de vivre dans une société multiethnique, dans laquelle les religions sont diverses et dans laquelle il faut apprendre la coexistence. Donc tout ça existe. Après, la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un laxisme d'un certain nombre de chefs d'établissement qui ne veulent pas l'appliquer de peur de créer des tensions ? Je rappelle quand même que un professeur est mort en octobre 2020 pour justement avoir dit dans son cours le principe et d'avoir rappelé le principe de laïcité, Samuel Paty. Je rappelle qu'il y a encore quelques heures, un autre professeur à Évry-Courcouronnes a été menacé pour la même raison, parce qu'il introduisait un certain nombre d'éléments sur la laïcité. Donc, évidemment, il y a plusieurs dimensions dans cette question. Premièrement, il en va de la responsabilité du ministre, Pape Ndiaye, où Jean-François Blanquer était responsable de ce que les professeurs doivent dire à leurs élèves. Premièrement. Deuxièmement, les chefs d'établissement doivent aussi avoir cette capacité à dire que la laïcité est quelque chose qui permet à des élèves des individus de devenir citoyens. Vous vous souvenez peut-être cette formule employée par le philosophe Alain, qui disait on ne naît pas citoyen, on le devient. On le devient après par rapport à ce qu'on apprend. Donc l'apprentissage, l'école fait partie intégrante de ce que un individu va acquérir, va prendre pour soi tout au long de sa vie. Donc évidemment, c'est structurant. L'école est structurante par rapport à ça. Maintenant, ça ne suffit pas, parce que tout le monde n'a pas les mêmes parcours scolaires, tout le monde n'a pas les mêmes parcours de vie, donc il faut trouver une sorte de module. Alors, je ne suis pas certain qu'il faille éduquer les parents à l'éducation. Il faudrait que nous soyons tous convaincus de manière simple, de manière rapide et de manière intuitive sur ce qu'est la laïcité. Ça a été dit, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de respecter la religion de l'autre ou la liberté de penser que parfois il y a des gens qui ne veulent pas avoir de religion. Et le fait de dire que l'État est au-dessus des religions et que le seul espace de convivialité qui permet de s'émanciper, j'allais dire, des passions par rapport à, aux idéologies et par rapport à la religion, parce que la religion est aussi inscrite dans une logique de foi, littéralement de foi, c'est justement de garantir un espace public dans lequel on met tout ça de côté. C'est simple, c'est ça la laïcité. Donc il faut que les responsables politiques qui donnent le là doivent rappeler ces principes fondamentaux mais basiques de notre société.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour connaître la vie évidemment et le point de vue de Rudy Kazi. 0153483000 vous aussi. Et on parlera aussi encore d'un sujet, c'est celui de la rencontre Erdogan, le président turc et Vladimir Poutine. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, c'est avec Emmanuel Dupuis, Les Informés, c'est également avec Rudy Kazi. Allez, Rudy, je vous donne la parole avant de parler de ce dernier sujet, la rencontre qui était très attendue d'ailleurs. Et bon, on va revenir sur ce sujet. Sur la laïcité, l'atteinte à la laïcité à l'école. Rudy Kazi, vous dites quoi?
C'est assez symptomatique d'un climat qui est pas très bon hein, depuis les attentats donc 2015-2016. Donc mais après déjà ce qu'il faut dire c'est que faut d'abord parler des difficultés avec lesquelles travaillent les instituteurs aujourd'hui. Moi j'ai 4 enfants scolarisés. Mm-hmm. Non, 5 en fait.
Ouais. Il sait pas combien d'enfants ils sont scolarisés.
Il fallait que je recompte parce qu'il y en a une qui
bah alors,
à la maternelle. Je tairai ce nombre à la radio.
Il joue l'ambiguïté.
Tout à fait. Non, il faut le dire. Et moi, j'ai vu, par exemple, des professeurs arriver sans aucune expérience. On a vu comment le gouvernement a recruté 4000 instituteurs à tour de bras depuis cette rentrée. Et on voit qu'effectivement l'éducation nationale est vraiment en grande difficulté. On parle pas de crise de l'éducation nationale, mais en réalité elle y est aussi par rapport à une difficulté d'appréhender une nouvelle génération de jeunes, d'enfants qui arrivent à l'école. Peut-être que les professeurs sont en manque d'outils. C'est déjà assez le cas de façon globale en termes de budget, etc. Donc de ce point de vue-là, il faut leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils font. La vocation qui est la leur de pouvoir braver un petit peu toutes ces difficultés et être là quand même pour faire le job. Maintenant, derrière, je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul et se dire que on vit quand même des temps un peu compliqués. Il y a l'affirmation de façon plus générale, de façon plus internationale, de certaines, on va dire, d'un retour de grandes civilisations qui veulent à nouveau prévaloir sur le monde. Et il y a, on va dire, dans le monde arabe, des factions terroristes qu'on a connues par le passé qui pensent pouvoir vous voyez, se revêtir de ce mandat-là, de faire revenir des grandes civilisations, etc. Et je pense que au travers des attentats, malheureusement, il s'est mêlé cette réalité-là plus celle effectivement d'une population française qui est de confession musulmane qui a vécu de plein fouet les conséquences des attentats, méfiance, islamophobie, etc. Et je pense que ce à quoi on est en train d'assister actuellement avec effectivement des jeunes finalement qui sont assez décomplexés mais pas forcément de la bonne manière dans les écoles est constitutif et consécutif de cette réalité-là. Il y a une volonté, je pense, de s'opposer à l'islamophobie par l'affirmation, entre guillemets, de son identité. Donc nous, par exemple, si je fais le pied de nez avec l'Association des élus de France...
On avance parce que là, on est bientôt à la fin de l'émission.
Et je finirai là-dessus. On est une association qui parle particulièrement des fractures qu'on a identifiées et pour lesquelles on pense que les élus locaux sont en capacité d'apporter des solutions. C'est ce qu'on a fait au travers de notre livre, La promesse républicaine. Et il y a une fracture identitaire, malheureusement, qui, là, en l'occurrence, se manifeste comme une volonté de lutter contre cette islamophobie, mais d'une manière parfois malencontreuse, d'une manière erronée ou d'une mauvaise manière. Alors que, dans l'établissement, la laïcité, effectivement, le prévoit, c'est-à-dire, dans la rue, on a le droit de montrer sa religion, mais dans l'espace qui est celui de l'école, donc de l'État, effectivement, là, tout le monde est censé être logé à la même enseigne.
Tous les établissements publics.
Dans tous les établissements publics, y compris pour les fonctionnaires, etc. Donc là,
dernier sujet, messieurs, il faut qu'on avance. Je suis obligé d'avancer, il est 19h27, il nous reste quelques minutes à peine. Vous savez, la Turquie. Alors, on attendait, vous savez, cette rencontre. Le Kremlin s'attendait à ce que le président turc Erdogan, justement, propose aujourd'hui à Poutine une médiation sur la guerre en Ukraine. Eh bien non. Emmanuel Dupuis. Que s'est-il passé?
C'est le contraire. En fait, c'est la Russie.
Que s'est-il passé?
C'est la Russie qui a proposé, plutôt à défaut d'une médiation, que la Turquie finalement soit le médiateur, le facilitateur, en fait le tuyau qui permette à ce que le gaz russe, ouais, ne pouvant plus transiter par Nord Stream 1 et Nord Stream 2, transite à travers la mer Noire. Donc c'est
pour l'Europe.
Pour l'Europe.
Pour distribuer l'Europe.
Ceux qui le veulent.
Oui, pour ceux,
pour ceux qui le veulent. La Hongrie est en train de négocier. L'Italie n'a pas totalement fermé les écoutilles. Et un certain nombre de pays, dont la Bulgarie, sont en train de se tâter. Alors ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi surtout?
Ça veut dire que Recep Tayyip Erdogan est brillantissime dans l'art de la diplomatie, qu'il joue parfaitement le rôle du en même temps, qui pourrait le rapprocher d'Emmanuel Macron, avec qui il a quelques différentes appréciations,
et qu'il veut
se rendre indispensable à l'un comme à l'autre. Et que finalement, c'est assez vrai, parce qu'il est membre de l'OTAN, il ne pratique pas les sanctions à l'égard de la Russie, il montre de temps en temps son animosité contre la tension occidentale vis-à-vis de la Russie, par exemple en s'abstenant lors des premières résolutions contre la Russie, en votant contre, il y a quelques heures, à l'ONU, quand il s'agit de pas reconnaître, d'ailleurs il a toujours été très clair là-dessus, l'annexion des quatre oblats ukrainiens, et puis en même temps, en jouant son rôle centro-asiatique, avec une diplomatie turcique qui est bien plus large que la Turquie, qui englobe la mer Noire, qui englobe l'espace de la Méditerranée orientale. Et là où je dis qu'il est parfaitement habile, c'est que de l'autre côté, il est toujours membre de l'OTAN, il est toujours indispensable parce que la coopération avec les États-Unis reste forte sur le point de vue sécuritaire, il est indispensable au commerce mondial. Brady. Car il contrôle les deux détroits du Bosphore et de Dardanelles. Donc c'est une manœuvre diplomatique particulièrement brillante.
Brillante. Rudy Kazi, en quelques secondes, pardon, mais on dort de l'antenne.
Non, je pense qu'effectivement c'est intéressant de voir à quel point il a réussi à se placer entre les deux, sachant que la Turquie est toujours un petit peu l'allié qu'on ne veut pas. Mais là-dessus, il s'est rendu indispensable, que ce soit sur la question effectivement du pétrole, mais aussi sur les denrées alimentaires, sur le blé, sur toutes ces choses, effectivement, dont il devient finalement celui qui, par lequel, des pays qui subissent effectivement cet embargo russe pourront de nouveau bénéficier de ces denrées alimentaires, en particulier.
Merci.
Pas que les pays riches, aussi les pays pauvres. Donc, il sera indispensable, c'est assez intelligent.
Merci, messieurs. Merci, Rudy Kazi. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci à Emmanuel Dupuis. À très bientôt. À la réalisation, c'était... Absolument. C'était Salem. Merci à Salem. Merci aux nombreux auditeurs. On remet ça demain. Bilan Edman, 20h-21h. Quant à moi, on se retrouve demain avec autant de plaisir. Mais d'ici là, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.